7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 17 janvier. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, en route pour le pass vaccinal, le texte a été définitivement adopté hier par l'Assemblée nationale. Il remplace le pass sanitaire pour tout le monde à partir de 16 ans. On voit ça en détail après les autres titres, Anaïs.
Retour sur un week-end politique chargé à gauche, l'Union souhaitée encore un peu plus fracturée. Dans ce journal, nous serons aussi au Kazakhstan, 10 jours après les émeutes meurtrières, la thèse officielle de terroristes extérieurs mise à mal. Enfin, l'histoire d'Herculine Barbin, née fille au 19e, propulsée dans le monde masculin, c'est au Théâtre de Bordeaux.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, avec vous Léa.
Oui, elle est l'une de nos meilleures actrices françaises, mais elle vient nous présenter son premier film comme réalisatrice. Une jeune fille qui va bien, raconte l'histoire d'Irène, passionnée de théâtre et qui veut passer le conservatoire, sauf qu'on est à l'été 42 et qu'elle est juive. Sandrine Kiberlin sera avec nous à 7h05.
Et on se retrouvera tout à l'heure, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec l'épidémiologiste et membre du conseil scientifique, le professeur Arnaud Fontanet. Question sur le Covid, l'épidémie, dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard vous attend, il est ouvert.
France Inter.
De rebondissements en psychodrame, voici donc le pass vaccinal enfin adopté après 2 semaines de discussions parlementaires agitées. La majorité, les Républicains et une minorité des socialistes ont voté pour. La gauche, l'UDI et le Rassemblement National ont voté contre. Bonjour Elia Bergel.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
On voit avec vous ce que contient la version définitive du texte adopté.
Alors, dès son entrée en vigueur, le pass vaccinal remplacera totalement le pass sanitaire partout où il est actuellement demandé. Par exemple, les restaurants, les cinémas, les grands centres commerciaux, les trains ou les cars. Concrètement donc, vous devrez montrer une preuve de schéma vaccinal complet ou bien un certificat de rétablissement du Covid-19 datant de moins de 6 mois. Un test négatif, qu'il soit antigénique ou PCR, ne suffira plus. Exception sera faite pour les établissements de santé, par exemple les hôpitaux ou les EHPAD. Et si jamais vous êtes non vacciné, mais que vous avez commencé votre parcours vaccinal, ou si jamais vous n'avez pas encore reçu votre dose de rappel, alors un test négatif suffit le temps de valider entièrement votre schéma vaccinal.
Et cette version prend-elle en compte les modifications voulues par le Sénat ?
Oui et non en fait. Les sénateurs, en majorité à droite, ne souhaitaient pas que le pass vaccinal s'applique aux moins de 16 ans. Cette disposition est retenue dans la version définitive du texte. Jusqu'à 15 ans donc, le pass sanitaire pourra encore être utilisé. En revanche, l'Assemblée nationale rétablit une mesure contestée par le Sénat. Il s'agit de la vérification d'identité par les responsables d'établissements concernés par le pass, un contrôle qu'ils pourront mener en cas de doute sur l'authenticité du document que montrent les clients ou les usagers. Le texte durcit aussi le ton face aux fraudeurs. Vous risquez jusqu'à 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende si vous utilisez un pass falsifié ou celui de quelqu'un d'autre.
Et on attend encore pour la promulgation de ce 12e texte sanitaire en 2 ans, les 2 recours déposés à gauche devant le Conseil constitutionnel. Côté épidémie, le nombre de nouveaux cas est en baisse, sous la barre quotidienne des 300 000 cas en moyenne. Il y a de plus en plus de malades dans les hôpitaux, mais stabilité du nombre de patients en réanimation. Et alors que depuis 2 ans de pandémie, on vante les besoins de liens sociaux, de consommer local, une tendance contre-intuitive interroge. Les AMAP perdent des adhérents. Ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne regroupent des habitants qui s'engagent à acheter à prix fixe chaque semaine la production d'un agriculteur. Il y a 2 ans, il y avait de l'attente pour y entrer. Mais depuis la crise, les associations enregistrent une baisse de 20% des inscriptions. Le reportage de Julien Morcelli dans une AMAP parisienne.
Mathilde repart avec 2 gros sacs remplis de légumes.
On a 1 kilo de pommes de terre, de la courge, du chou pak choy.
Cette employée de mairie n'a pas déserté la MAP, mais elle a vu des adhérents le faire.
Il y a plusieurs personnes qui sont parties, qui ont quitté Paris. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à tenir l'engagement. Par exemple, aider notre maraîchère à récolter les patates, aider à désherber.
La maraîchère, c'est Isolde Deljon, en train de couper des courges cueillies dans sa ferme en Seine-et-Marne. Cette année, lui manque 10% de panier pour être rentable.
Là, aujourd'hui, la ferme, elle rentre pas dans ses charges. Il y a des collègues qui nous disent
qu'il y a 50% de personnes qui ne renouvellent pas dans leur groupe. Ça les met vraiment en péril économiquement. Le prix du panier, il est directement en rapport avec le coût de fonctionnement de la ferme et nos rémunérations.
C'est tout un modèle de consommation locale bouleversé par la crise Covid, d'après le porte-parole du réseau national des AMAP, Florent Seban.
C'est plus compliqué de créer du lien, c'est plus compliqué de sortir de chez soi. Or, tous nos systèmes de circuits courts, de petits magasins à la ferme, c'est des systèmes qui sont fortement basés sur le lien social.
Cette baisse de fréquentation ne se réduit pas aux associations paysannes. Selon la Fédération nationale d'agriculture, si la consommation de bio était en progression ces dernières années, elle a stagné depuis le début de la crise Covid.
Et en bref, encore Novak Djokovic a atterri à Dubaï après son expulsion d'Australie. L'Open de tennis débute aujourd'hui. Les sportifs seront concernés en France par le pass vaccinal, a précisé hier la ministre des Sports.
Il est 7h06 après un dense week-end politique. Les brumes de la campagne, Anaïs, se sont-elles dissipées à gauche?
Eh bien, il y a au moins une certitude. Il y a 8 prétendants en comptant la candidature dissidente du NPA. Christiane Taubira, elle, participera à la primaire populaire dont aucun des 7 principaux candidats ne veut. Et ils l'ont dit à leur façon ce week-end, Laurence Perron.
Samedi matin, dans le froid des pentes de la Croix-Rousse à Lyon, Christiane Taubira sort enfin de l'ambiguïté.
Je m'engage auprès de vous.
La désormais candidate, soutenue par le Parti radical de gauche, allié traditionnel du PS, est brocardée par Anne Hidalgo dans le journal du dimanche. Plutôt qu'unir, la candidature de Christiane Taubira va encore séparer, diviser et créer de la confusion. Le candidat écologiste Yannick Jadot est sur une ligne qui rappelle un peu celle des insoumis. Je ne suis pas comptable des querelles de la vieille gauche.
Aujourd'hui, moi, ce que je fais dans cette campagne, c'est la guerre pour le climat. C'est pas la guéguerre avec la vieille gauche.
Jean-Luc Mélenchon, en meeting high-tech hier à Nantes, enfonce encore un clou dans le cercueil de l'union de la gauche.
C'est pas d'union dont on a besoin, c'est de clarté et de mobilisation populaire. Vous ne pouvez pas mobiliser si vous donnez l'impression que vous êtes un menteur qui va ensuite arranger ses carabistouilles dans un coin avec ses copains des autres partis. Je ne suis pas leur copain.
Tout ce petit monde figure pourtant dans la liste des finalistes de la primaire populaire qui devra désigner le 30 janvier la personnalité la plus à même de porter la voix de la gauche à l'élection présidentielle. À l'exception de Christiane Taubira, tous ont déjà dit que le verdict ne changerait rien à leur campagne.
Et vote prévu les 27 et 30 janvier, selon nos informations, 250 000 personnes se sont déjà inscrites. Jugement attendu cet après-midi pour Éric Zemmour qui s'en était pris sur CNews aux mineurs isolés. Le parquet avait requis des peines d'amende pour provocation à la haine et injures raciales. Le candidat d'extrême droite sera aussi jugé en appel jeudi pour contestation de crimes contre l'humanité. Et à 3 mois des élections, l'Élysée annonce 4 milliards d'euros d'investissements cumulés pour l'industrie française via Choose France, programme pour attirer des investisseurs avec des aides publiques entre 5 et 10% du montant des investissements. Nouvelle fournée de 21 projets présentés aujourd'hui, comme celui du chimiste allemand BASF en Alsace, où se rend Emmanuel Macron cet après-midi avant l'hommage au Parlement européen à son président David Sassoli, décédé récemment.
Il est 7h08 au Kazakhstan, la population spoliée de sa révolte.
10 jours après les émeutes contre la hausse des prix du gaz, les habitants comptent encore leurs morts. 19 policiers et 206 manifestants tués, des civils, mais aussi du pouvoir des terroristes venus de l'étranger pour déstabiliser le pays. France Inter s'est rendue sur place. Cette thèse est contredite par les experts de l'ONU. Reportage Thibault Lefèvre avec Arthur Gerbeau.
Il y a quelques jours, Zambolat Mamai a quitté son domicile.
Je ne voudrais pas que ma famille me voie si je suis arrêté.
Il vit désormais dans une maison de la banlieue d'Almaty protégée par un molosse en cage et une grille fermée à double tour, car ce dirigeant du Parti démocrate, interdit par les autorités, a participé aux violentes manifestations des 4 et 5 janvier dernier et il s'est exprimé publiquement avant d'être violemment agressé.
J'ai été attaqué par un groupe de 20 à 25 personnes. Ils avaient des armes et des marteaux. Tous ces gangs de criminels appartiennent au clan de la famille de Nursultan Nazarbayev, car Almaty est sous le contrôle de l'ancien président. Non, il n'y avait pas 20 000 terroristes.
20 000 terroristes pilotés de l'étranger, c'est la version des faits de l'actuel chef de l'exécutif Kassim Jomar Tokayev. Pour Evgeny Zovtis, qui dirige le Bureau international des droits de l'homme à Almaty, la situation n'est pas aussi simple.
Il y a eu plusieurs groupes. Ces violences viennent à différents degrés de jeunes, d'islamistes radicaux et de militants proches des élites locales. Les activistes pour la défense des droits n'ont, eux, pas été impliqués.
Et en aucun cas, selon ce conseiller occasionnel du pouvoir, ces groupes se seraient coordonnés ou auraient agi sous l'influence d'une ingérence étrangère.
Reportage Thibault Lefebvre. La Corée du Nord semble accélérer. Quatrième tir ce mois-ci, détecté cette nuit par la Corée du Sud. Un projectile non identifié. En France, comment mieux protéger les cyclistes en ville? La mort la semaine dernière à Lille d'un jeune à vélo renversé par un camion relance le débat sur les angles morts. Entre 2019 et 2021, le nombre de cyclistes tués en ville a augmenté de 20%. Alors à Montpellier, Yann Gallic, on a installé des détecteurs d'angles morts sur les bus.
À Montpellier, 26 bus sont équipés de ce système de sécurité testé depuis un an, avec une caméra frontale et deux caméras latérales qui permettent de détecter les piétons et les cyclistes dans les angles morts. Le conducteur du car est alerté en temps réel par un signal sonore et visuel. Julie Fraîche est la vice-présidente de la métropole Montpellier-Rennes, en charge des transports.
Sur les 10 premiers bus, l'expérimentation a coûté 60 000 euros, donc voilà, c'est 6 000 euros pour équiper un bus. On équipe les lignes les plus urbaines du réseau, là où la circulation est la plus dense. Et depuis que ces bus ont été équipés, il n'y a eu aucun incident relevé avec un piéton, un cycliste ou une trottinette.
L'agglomération de Montpellier va installer ce dispositif sur une soixantaine de nouveaux bus dans les prochaines années. Denis Ferrer est le vice-président de l'association cycliste Vélocité.
C'est quelque chose qui devrait être généralisé à l'ensemble des poids lourds, hein, pas seulement les bus. Ce type de dispositif permet de limiter les risques pour les cas où on n'a pas d'autre choix. Ce qu'on a tout intérêt à faire pour une meilleure sécurité pour tous, c'est surtout éviter les situations où des personnes vulnérables comme des cyclistes se retrouvent à proximité de gros engins.
En France, les angles morts sont responsables de 10% des décès chez les piétons et 8% chez les cyclistes. À Paris, ce danger représente même un tiers des accidents mortels.
En football, le nul de Marseille face à Lille à domicile, un partout, Rennes et Lyon renouent avec la victoire. Et puis connaissez-vous Herculine Barbin? C'est son histoire singulière qui est racontée en ce moment au théâtre de Bordeaux, l'histoire vraie d'une hermaphrodite du 19e siècle qui raconta sa vie, récit déniché en 1978 par Michel Foucault et qui interroge la notion de genre, Stéphane Capron.
Herculine Barbin est élevée comme une fille. À la puberté, on découvre qu'elle est née avec un sexe masculin. On lui change d'autorité, son identité, sa vie s'en trouve alors bouleversée. Elle n'est plus propriétaire de son corps. En mettant en scène cette histoire, Catherine Marnasse rend hommage à une combattante.
On est les passeurs, comme a pu l'être Foucault, d'un témoignage, d'un courage. C'est-à-dire ce qu'il a fallu à cette personne, j'allais dire de foi dans l'avenir, dans le fait d'écrire avec ses larmes pour passer ces choses-là à la postérité. Parce que c'est une époque où les gens comme elle étaient des sujets, c'est elle qui parle.
Yu Ming-he interprète avec fragilité et force le rôle d'Herculine Barbin. Ce comédien non-binaire souhaite que ce spectacle fasse avancer le regard que porte la société sur les genders fluides.
Concrètement, là, on parle d'une personne intersexe, mais elles sont encore invisibilisées dans la société. Par exemple, sur ta carte d'identité ou ton passeport, ça n'existe pas. Donc elles sont invisibles. J'aimerais bien qu'on passe à autre chose que d'en parler, mais qu'on passe à des lois concrètes qui puissent ne plus invisibiliser les personnes qui existent.
Yu Ming-he est déchirant lorsqu'il décrit les souffrances d'Herculine Barbin qui choisit de mettre fin à sa vie à l'âge de 30 ans.
Herculine Barbin, c'est jusqu'au 22 janvier au Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine.
Merci Anaïs Feugat. Le Zoom dans 3 minutes. Aujourd'hui, parole de non-vaccinés.